C'est drôle parce que souvent quand on pitch un film à un pote ou qu'on lui raconte une scène d'un film, on lui dit ouais, puis là à un moment donné, le mec il bute deux méchants ou il y a des méchants qui arrivent, etc. Et tu le dis jamais dans la vraie vie ça. Par exemple, hier j'étais dans le métro, puis il y a un méchant qui est arrivé. Tu sais, c'est un mec qui va te voler de la thune, mais c'est pas un méchant. Tu vois, tu l'appelles pas méchant, mais les méchants c'est que pour les films, c'est pas dans la vraie vie en fait.
Si ça se trouve, vous l'avez déjà expliqué, mais pourquoi on est ici exactement?
Vous êtes ici parce que vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs.
Simply the best, down, 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 down.
Bienvenue dans ce nouvel épisode du meilleur podcast, le podcast où on débat des meilleures choses avec les meilleurs invités. Je m'appelle Cyrus.
Bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler de méchants de cinéma. Nous allons parler du meilleur méchant au cinéma. Je suis Tom.
Et avec nous, on est en très bonne compagnie, Tom.
Excellente est avec, compagnie.
On est d'abord un invité qui est revenu.
Oui. Hein,
ça n'arrive pas souvent.
Non.
Et c'est Aurélien Prévost.
J'étais déjà venu, moi.
Oui, pour le meilleur, loto. Tu te souviens pas?
Non, aucun souvenir. Ouais.
Eh bah, ok, ça fait plaisir.
Yes. Est-ce que ce serait pas Aurélien déjà le meilleur méchant? Est-ce qu'on peut
juste eh oui.
Est-ce qu'on a besoin de faire cette émission?
C'est vrai, je suis Aurélien Prévost. Je joue souvent des méchants dans les sketchs, d'ailleurs. On me met un col roulé, j'ai l'air méchant.
C'est vrai, c'est
mais
vrai.
Mais sans le col roulé aussi, j'ai l'impression.
Ok, on fera un test concours de meilleur rire de méchant plus tard dans l'émission.
Non, ça j'aime pas, par contre.
Ouais, d'accord. Okay.
Désolé de tout détruire. Pas. Mais merci de m'avoir réinvité, car je me rappelle très bien de la première fois que je suis venu, c'était incroyable.
Ah,
ça fait plaisir, ça fait plaisir.
Comme quoi, sous cette carapace se cache un petit être tout mignon. Et on reçoit également pour cet épisode JB de la chaîne Tales from the Click.
Tu l'as très bien dit, bravo.
Ouais, je me suis vachement entraîné. J'ai pas bossé l'émission par contre, j'ai bossé juste la prononciation de ta chaîne.
Mais c'est déjà énorme.
Donc je sais pas ce qu'on va faire après. Merci d'être là, JB, ça nous fait très plaisir.
Bah, merci à vous de m'avoir invité.
JB, voix de velours, hein, c'est ton surnom dans la profession.
C'est effectivement comme ça qu'on m'appelle.
Alors vous nous direz si vous trouvez que sa voix est plus orange ou violette. On a un débat là-dessus.
Quelle est la couleur de la voix de JB? JB, est-ce que tu peux présenter un petit peu ce que tu fais pour les gens qui te connaissent pas?
Ouais, j'ai une chaîne donc qui s'appelle Tales from the Click et qui parle essentiellement de cinéma. Il y a trois formats à l'intérieur, dont un où on suit deux types qui travaillent dans un vidéoclub et qui racontent plein d'histoires liées à des films, des vannes, etc. Et puis voilà, puis la chaîne a 2-3 ans et puis voilà.
Excellente chaîne qu'on recommande à pouvoir faire le podcast.
Bien sûr, et moi j'en profite pour qu'on demande aussi à Aurélien, genre qu'est-ce qu'il fait, parce qu'il est déjà venu, il s'est déjà présenté, mais les gens n'écoutent peut-être pas toutes nos émissions, et c'est dommage. Mais
tout à fait.
Aurélien, dis-nous tout.
Moi j'ai une chaîne YouTube aussi qui s'appelle Aurélien Prévost, où je fais petites vidéos marrantes. C'est marrant.
T'en as même deux même.
Marrante et feel good. Toi t'aimes bien. Ah
ouais, exactement. Moi je trouve qu'elles sont très feel good. Elles sont très genre tu regardes, tu ressors avec le sourire. Voilà. Toujours des petites expériences, des petits machins. À chaque fois ça change.
Les petits délires d'Aurel. C'est pas le nom de ma chaîne.
Non. Et ça aurait pu.
Et l'autre chaîne dont tu parles, j'imagine, c'est Multiprise.
Exactement.
Une chaîne que j'ai avec des comparses Freddy Gladieux et Anis Rally, où on fait des sketchs hilarants.
C'est ça. En fait, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de contenu. Voilà. Mais le contenu qui est dessus vaut le coup quand même d'être vu.
Vous pouvez quand même y aller. Voilà. C'est comme dire que Jurassic Park, c'est déjà sorti il y a longtemps, ça n'a pas d'intérêt de le regarder. Eh bien, si.
Exactement.
Tout comme notre chaîne, ça vaut le coup de regarder, même si ce n'est pas alimenté chaque semaine comme le veut YouTube.
Tout à fait. Tom, est-ce que c'est pas le moment où t'as un petit dédito à nous faire? Un petit déditum, j'ai envie de dire.
À l'heure où le monde se passionne pour une émission qui explique comment trier ses chaussettes sur Netflix, je pense qu'il est temps de rappeler la dure vie que mènent les méchants dans les films. Parce que ouais, être méchant dans un film, bah c'est pas facile. Déjà, être méchant, c'est souffrir du racisme. Hein, je vous raconte pas le nombre de James Bond, de Mission Impossible, de Rambo ou de Rocky où les méchants sont russes ou allemands, alors que les Français, hein, vu nos performances à l'Eurovision ces 30 dernières années, bah c'est clairement de nous dont on devrait se moquer. Ensuite, être méchant, c'est être touché par la crise financière. Parce que depuis cette année, je sais pas si vous avez suivi, mais il y a le British Film Institute qui ne financera plus les films montrant des méchants avec des cicatrices pour cesser la discrimination faite envers les personnes avec des stigmates visibles.
Ah ouais. Ah ouais, putain, serious business quoi.
On est sur un truc hyper sérieux, hein, comme si cicatrice rimait avec méchant. Excusez-moi de penser que c'est complètement con, hein, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est pas Harry Potter et sa balafre du tonnerre qui veulent éradiquer tous les moldus de la planète. Enfin, être méchant, c'est surtout souffrir d'une grande détresse dermatologique. Et ça, on n'en parle pas assez. Je m'explique. Il y a 3 dermatologues qui ont recensé les problèmes de peau des 10 plus grands héros et méchants du cinéma, en se basant sur une liste de l'American Film Institute. Et donc, côté héros, à part les légères balafres d'Indiana Jones, de Rocky et de 2 autres persos, la peau de tout le monde est aussi clean que celle de Cyril Ferraud. Par contre, côté méchant, 60% des personnages ont des problèmes très visibles. Calvitie, rides, verrues, hypertrophie du nez, boutons. Non mais est-ce que vous imaginez le calvaire, hein ? Comme si être méchant ne suffisait pas, vous devez en plus vous coltiner un faciès d'adolescent en pleine puberté. Et enfin, je voudrais finir cet éditum en rendant hommage à un méchant trop souvent oublié dans le cinéma, le plus feignant mais aussi le plus efficace de l'histoire du cinéma, l'iceberg de Titanic. Bref.
Je crois que c'était Weinstein, pardon.
Ouh,
ok, ça dénonce.
Ça dénonce, ça dénonce.
On a une émission qui dénonce femmes. Aujourd'hui. Mais bon, bref, de Jafar à Thanos ou de Norman Bates à Ian Moix, les méchants n'ont pas fini de nous fasciner. Du coup, je voulais vous demander, chers invités, quel est le premier méchant qui vous a vraiment fait kiffer, peut-être plus que le héros du film, JB?
Moi, il y a un méchant qui m'a vraiment marqué quand j'étais tout jeune, c'est Skeletor dans Les Maîtres de l'Univers. Parce que déjà parce que son apparence, le squelette comme ça, et c'était dans un environnement assez enfantin finalement, mais il faisait quand même peur, et au final il était assez cool aussi, et c'est peut-être le premier méchant qui m'a marqué quand j'étais petit. Voilà, Skeletor, Les Maîtres de l'Univers, pour ceux qui ne connaissent pas, avec Dolph Lundgren. Très cool film.
Est-ce que tu peux pitcher vite fait le film? Ici, on a tendance, comme on n'est pas des gens forcément qui sont experts de cinéma qui nous écoutent, on aime bien pitcher rapidement les films. Est-ce que tu peux
Les Maîtres de l'Univers, ça suit l'histoire de Musclor, interprété par Dolph Lundgren. Et dans ce film-là, ils sont envoyés dans le futur. Et dans le futur, ils vont rencontrer Courtney Cox dans un de ses premiers rôles. Et finalement, ils vont vouloir revenir dans le passé, mais les humains du futur vont devoir les aider. Voilà, c'est très sommaire, mais quand t'as 10 ans, c'est très cool à regarder.
Ok, donc Skeletor, premier crush de méchant.
Premier crush de méchant, Skeletor.
Aurélien, toi, ton petit méchant.
Tu l'as trouvé plus cool que le héros, c'est ça?
Ouais, ou la première fois où dans un film ou un dessin animé, tu te dis putain, le méchant il est plus stylé que le héros, j'ai l'impression.
Merde.
Si tu veux, je peux prendre la main et tu réfléchis.
Vas-y, ouais.
Moi j'ai déjà une remarque sur les 10 tomes.
Ouais.
C'est que, en fait, je pense que c'est intimement lié, ce truc de peau là avec le méchant. C'est parce qu'il a ce truc de peau qu'il devient méchant.
Aussi, ouais.
Tu vois, c'est que genre il se fait bâcher à l'école, etc. Machin. Il dit, vas-y, moi je vais me venger, monde de merde et tout.
Ouais, et puis aussi.
Et il devient méchant.
Et parce qu'aussi, je pense que sociologiquement et tout, c'est prouvé qu'un faciès qui n'est pas agréable à regarder est considéré comme méchant et donc plus facile à situer pour la personne qui va regarder le film aussi, tu vois.
Je suis hyper vexé parce que j'ai souvent joué des méchants quand même, moi. Et dont une fois avec une cicatrice.
C'est vrai.
Je propose de t'envoyer d'ailleurs une photo d'un visuel de moi avec une cicatrice pour le visuel de votre podcast, là, le petit rond. Ça, c'est direct, ça fera peur. Et j'ai une petite calvitie, on a dit aussi que c'était ça, c'est ça?
Oui, exactement. Et les lunettes aussi, on a dit, je crois. Et les pulls noirs, c'était les principaux éléments, vous voyez pas, mais c'est vrai que du coup, t'as toute la panoplie du.
Mais d'ailleurs, il y a un concept.
Et j'ai tué deux femmes hier, en plus.
Je crois que t'aimais bien les femmes. Tu te contre,
oui, j'aime bien les femmes.
Paradoxal, un vrai méchant.
Je l'ai tué.
Il y a un concept de philo qui était. Enfin, que les Grecs kiffaient bien, c'était kalos kagatos. En grec, ça veut dire ce qui est beau et bon. Tu vois.
Ok.
Et donc, ça reboucle un peu avec ce que tu dis là. C'était que, effectivement, genre, quand quelqu'un est beau, on a tendance à l'imaginer gentil. Ou voilà, c'est un peu l'effet de halo qui a un biais cognitif aussi. Ou genre quelqu'un qui est beau, on va croire qu'il est aussi intelligent, qu'il est aussi bon orateur, qu'il est aussi, enfin voilà, qu'il a d'autres talents.
Donc on part sur une émission hyper intello.
Non, c'est pas voilà. Alors voilà.
Tout de suite.
Le nivellement par le bas de notre société. On a dit kalos kagatos, deux mots grecs, intello, tout de suite. Voilà.
Aurélien, du coup, qui est un auteur mais aussi un comédien de talent, t'as dit tout à l'heure que t'as joué des personnages méchants. C'est arrivé. Est-ce que ça t'amuse plus de jouer des gentils que des méchants?
Non, bah c'est marrant de jouer
des méchants,
c'est marrant de jouer des méchants, parce qu'on peut aller dans l'excès. En général, c'est un peu pour ça.
L'excès, les gonzesses en Lexus,
et puis
ton
même,
médaillon,
exact.
Touche à mon pénis.
J'ai tout à fait la ref, c'est
ouais.
Faux.
Yes.
Et
Roy Enoch.
Non, c'est bien marrant sûr. À jouer, parce qu'en général, on sait des trucs un peu haut en couleur. Ou même si tu parles pas forcément, t'as toujours une dégaine marrante. Enfin, tout de suite, tu sors d'un truc de réaliste. Parce que moi, de base, qui suis pas trop dans le manichéisme, en soi, un méchant, pour moi, ça n'existe pas vraiment. Donc tout de suite, quand tu joues un méchant, ça devient, c'est du cinéma. C'est forcément, tu te détaches d'un Bakri Jaoui, quoi.
Ok.
Et comme je joue dans tous leurs films, ça me change. C'est faux. Je précise que c'est faux, parce qu'on pourrait dire que c'est vrai, mais c'est faux.
Je peux reboucler ou pas?
Oui, bien sûr. Mec, ouais. C'est le podcast de tout le monde. Hein. Chacun
non,
parle.
Non, parce que c'est un truc en rapport avec Platon, et j'ai peur que ce soit trop intello du coup.
Ça suffit, Cyrus.
Ok. Non, mais en gros, il y a Platon qui dit que personne ne pense faire le mal.
Bah oui.
Tu vois ce que je veux dire? Et que
et c'est moi qui lui ai dit ça.
Et que même un mec qui est méchant, pour lui, il pense faire le bien.
Mais ça dépend.
Bah comme
comme
Thanos, sans vouloir.
Oui, non mais ou même.
Thanos
moi,
pour lui fait le bien.
Moi, il y a un des méchants dont j'y ai pensé quand Tom il a donné le sujet, etc. Et genre fallait réfléchir à des trucs. Il y a un méchant, genre je trouve que son motif, je peux en parler maintenant.
Ouais, vas-y, bien sûr, maintenant.
Il s'appelle.
Je suis pas trop d'accord personnellement, mais.
Non, mais genre, c'est pas mon méchant, c'est pas celui que je veux défendre, mais je trouve que son mobile est hyper intéressant et je pense que le mobile du méchant est important dans les critères qui font que c'est un meilleur méchant ou pas. Mais c'est Ra's al Ghul, donc dans Batman Begins notamment, où en fait, Ra's al Ghul, son but, c'est du terrorisme écologique, en fait. C'est genre, la planète se barre en couille, etc., machin. il faut surpopulation machin, enfin il faut faut intervenir quoi. Et il le fait de manière terroriste quoi. Et je trouve que c'est une putain de cause en fait, tu vois, genre il pourrait, lui je suis sûr il se considère hyper plus que gentil, il se considère comme sauveur de l'humanité.
En tout cas, pour revenir sur ce que tu as dit Aurélien, c'est drôle parce que souvent quand on pitch un film à un pote ou qu'on lui raconte une scène d'un film, on lui dit ouais, puis là à un moment donné le mec il bute deux méchants ou il y a des méchants qui arrivent, etc. Et tu le dis jamais dans la vraie vie ça. Par exemple, hier j'étais dans le métro, puis il y a un méchant qui est arrivé. C'est un mec qui va te voler de la thune, mais c'est pas un méchant. Oui, tu vois, pas méchant, mais ouais, les méchants c'est que pour les films, c'est pas dans la vraie vie en fait.
Et c'est bien pratique parce que quand un mec arrive, ton héros arrive dans un entrepôt et qui bute 25 hommes de main, ces hommes de main ils ont une femme, des enfants, et ils ont pas de taf, du coup ils prennent ce taf là parce que sinon Pôle emploi ils disent t'es radié, et il meurt en mode ah, un méchant il meurt. Mais non les gars, il était gentil peut-être.
Il y avait une vie derrière.
Ça me rappelle un film ça.
Il y a une vanne dans Austin Powers là-dessus.
Ah oui, voilà.
Tu vois un homme de main qui meurt. Et du coup, soudainement, tu vois une femme chez elle qui a reçu avec un peu de monde et tout. Elle a un coup de fil et on lui apprend que son mari est mort.
C'est horrible.
Ouais. Mais ça remet bien en perspective l'absurdité de tout ça. Mais c'est les codes du ciné, c'est marrant quoi.
Cyrus, tu as commencé à aborder un petit peu les critères qui faisaient un bon méchant en parlant du mobile. Est-ce qu'il y a vraiment pour vous un critère qui se dégage plus que les autres qui fait un bon méchant, JB?
Pour moi, un bon méchant, c'est un type qu'on déteste, mais qu'on aime un peu aussi. C'est ce qui fait aussi un bon méchant. Finalement, c'est très rare de voir des grands, vrais méchants au cinéma, parce que quand on regarde un peu les votes sur Internet, on voit que Dark Vador est le plus grand méchant, alors que pour moi, Dark Vador n'est pas vraiment un méchant, parce qu'on arrive à avoir un peu d'empathie pour lui. Mais les vrais méchants qui n'ont que de la méchanceté en eux, c'est assez rare au cinéma.
C'est quoi pour toi, Aurélien, un des critères importants pour faire un bon méchant ?
Les derniers mecs qui m'ont retourné la tête, c'est plus des méchants qui ont un pouvoir psychologique sur les autres.
Okay. Genre comme le Joker.
Le Joker, voilà, c'est ça. Ou tu sais, ou même le Christopher Waltz dans Inglourious Basterds.
Yes.
Que tu sais, le mec, il parle et juste il parle et il est horrible et il arrive à tout en parlant, tu vois, parce qu'il a une emprise psychologique de barge sur les gens. Et ça, je trouve c'est ouf parce que ça. C'est le truc où je trouve que c'est en même temps surréaliste et en même temps, il y a des gens qui pourraient faire ce truc-là, quoi, tu vois. Dans Fargo, je sais pas si vous avez vu Fargo, la série, enfin les trois saisons, les méchants de Fargo, je les trouve incroyables, quoi. Billy Bob Thornton dans la saison 1, exemple en deux secondes, il bute quelqu'un, il part avec une caisse qui est pas à lui, il y a un flic qui l'arrête pour un excès de vitesse, et le mec, il ouvre sa fenêtre, il parle au gars, et il lui explique qu'il faut qu'il le laisse partir, parce que sinon ça va partir en couille, tu vois. Mais il lui explique très calmement.
De manière très glaciale.
Et toi, tu te projettes en tant que flic, tu le laisses partir, tu vois. Alors que dans n'importe quelle fiction, de base, je trouvais ça un peu tiré par les cheveux, tu vois. Un peu, oui, bon, tu vois. Alors que là, non, je le laisse partir. Et ça, c'est des gars. Je trouve qu'il y a un truc intéressant. Donc j'aime bien ces méchants-là. Parce que t'as un truc de réel, en même temps. Heureusement, on ne croise pas des gars tous les jours comme ça dans la rue, mais je pense qu'ils existent, ces méchants-là. Quoi.
Il y a un psychiatre qui s'appelle Serge Tisseron, qui, lui, a défini l'efficacité du méchant sur trois critères, dans son bouquin 3, 6, 9, 12, apprivoiser les écrans et grandir. Pour lui,
c'est un peu un télo, je trouve, Tom.
Ouais, on est un peu casté les ramas un peu aujourd'hui. Pour lui, les critères du méchant, c'est l'absence d'état d'âme, c'est le plaisir pris à accomplir le mal et l'imagination engagée pour l'inventer.
Ah, c'est pas mal.
Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, s'il manque un truc.
Pour moi, il manque un truc.
C'est une bonne définition. Est-ce qu'il manque pas le style ? Est-ce qu'on n'aime pas aussi les méchants qui sont un peu stylés, qui ont un gimmick,
c'est le charisme, en fait.
Qui ont le charisme, exactement.
Pour moi, tout ça, je mets ça dans le chapeau charisme. Mais
ouais,
moi,
il n'avait pas cité, tu vois.
Je trouve qu'il manque un truc qui n'a pas trop été dit pour l'instant, j'ai l'impression. C'est juste la puissance, entre guillemets. C'est juste, ok, qu'il ait une emprise intellectuelle, psychologique et tout, mais il faut qu'il soit une brutasse, tu vois. C'est la puissance, la force, tu vois, genre
Thanos, quoi.
Il faut que ce soit le meilleur, faut que ce soit le meilleur de son domaine, quoi. Et faut qu'il soit plus fort que le héros, tu vois, pour moi.
Parles de puissance physique essentiellement ou...
Pas forcément, mais un truc genre il vainc ses ennemis, tu vois. C'est le king des méchants, et le héros galère à l'avoir, quoi, tu vois. Et ça, je trouve que, et en fait, quand Tom il m'a parlé de l'émission et on réfléchissait ensemble, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, je trouve que j'ai l'impression que tous les méchants, ils sont un peu pétés, quoi. Tu vois ? Genre, j'ai galéré à trouver un méchant qui gagnait, qui était plus fort que le héros, qui faisait en même temps peur, qui était balèze, qui parvenait à ses fins, qui avait un bon mobile. Enfin, tu vois ? Genre, je trouve que les méchants, ils sont tous un peu pétés, tu vois ? Et en même temps, c'est normal parce qu'on veut que le héros gagne. Mais. Je sais pas, vous êtes pas déçu des méchants ?
Je suis pas forcément d'accord. Par exemple, si on prend le méchant dans Seven, il arrive à atteindre les héros, en fait. Alors, j'ai pas vraiment envie de spoiler le film pour ceux qui l'ont pas vu, mais là on a carrément l'exemple d'un méchant qui atteint le héros plus que l'inverse.
Oui, mais c'est un peu un loser, tu vois, quelque part.
Bah non, parce que pour lui, lui, il veut pas.
Lui, il a réussi. Enfin, lui, il réussit son coup dans ce
film. Voilà.
C'est-à-dire que si tu prends le.
Est-ce que quelqu'un peut juste pitcher rapidement Seven?
Ouais, Seven, c'est l'histoire de deux inspecteurs, Brad Pitt et Morgan Freeman, qui sont sur une enquête. Un type qui commet des crimes en fonction des sept péchés capitaux. Et finalement, bon, voilà, c'est compliqué de parler du film sans spoil parce que après, on peut très vite dévier.
Mais il est à voir, il est à voir.
Ouais, il est à voir, mais en gros, pour moi, c'est un exemple de film où c'est le héros qui gagne à la fin complètement.
Le méchant, tu veux dire.
Le méchant, pardon, excusez-moi.
Bah, il y a un autre. Après, c'est chiant de spoiler tout ça, mais Kevin Spacey.
Alors, attention, on va faire une alerte. Chers auditeurs, on va parler deux secondes potentiellement du Usual Suspect, j'ai l'impression.
Usual Suspect. Ouais.
Alors, ceux qui l'ont pas vu, arrêtez d'écouter pendant 30 secondes.
Ouais, c'est dangereux, ça, ils vont jamais revenir, les gens.
Non, mais oui, parce qu'en fait, vu qu'on va parler des meilleurs méchants, on va. Enfin, moi, je sais qu'il est dans mon top 2, voire 3 ou 1. Effectivement, arrêtez. Enfin, clairement, arrêtez d'écouter.
N'écoutez pas l'émission.
Non, mais... Regardez Usual Suspect et reprenez. Le truc. Ouais. Du coup, voilà, ce disclaimer est fait.
Merci, Tom. Merci.
Du coup, Aurélien, vas-y, c'est bon, le tapis.
Et c'est l'un des films déployés. Qui a peu de sens si tu connais la fin, quoi.
Oui, comme Sixième Sens, pour ceux qui l'ont vu et qui savent aussi qu'il y a sûrement un spoil à la fin.
Et d'ailleurs, pour l'info, Usual Suspect, c'est un film dont on m'a expliqué la fin avant de l'avoir vu. Ce qui fait que je ne l'ai jamais vu parce que je connais la fin, en fait.
J'ai syndrome avec Sixième Sens.
Et bah, ça m'intéresse pas de le voir, en fait, à cause de ça.
Je comprends.
Voilà. Malheureusement.
Mais je pense que c'est une erreur. Je pense que.
Ouais, parce que c'est une expérience intéressante. Ouais.
Non, mais je le verrai un jour, mais du coup, je suis pas motivé à l'idée de le voir parce que je connais la fin et que c'est supposé être le film où vraiment faut le voir sans connaître la fin au préalable. Donc voilà.
Ouais, mais je pense qu'il y a des films où la seconde lecture est pas ouf, genre Sixième Sens. Ça a rien de dire la fin, mais tu le remates, ça marche. Tu vois, voilà. Mais t'es juste en train de regarder si ça marche. Et je trouve pas que c'est une expérience de spectateur. Bah non, parce qu'en vrai, oui, les quelques scènes là, ça marche, mais dans tout le reste de leur quotidien, je vois pas comment ça peut marcher.
Ouais, exact.
J'essaie de pas spoiler. Et du coup, je trouve que c'est intéressant, mais pas à la relecture. Alors que Usual Suspect, si. À la relecture, une fois que tu sais la fin, c'est un kiff de regarder le truc, quoi. Je trouve ça moins adolescent. C'est un peu péjoratif ce que je dis, mais.
On a mis un disclaimer, mais on n'ose pas trop le spoiler quand même, tu vois. J'ai pas envie non plus de. Tu vois, il est tellement bien.
Usual Suspect, ce qui est ouf, c'est que le mec. Bah, du coup, on spoil, on y va, c'est parti.
Vas-y, c'est parti.
C'est le méchant.
T'es sûr ou pas?
C'est le méchant de ouf parce que tu sais pas que c'est lui le méchant. Tu penses que c'est lui que tu suis tout le temps, alors qu'en final, c'est lui le méchant. Donc il bat tout le monde, même toi, quoi. Tu vois,
ouais.
Il y a un côté. Mais attends, même toi, tu peux en parler,
JB, même si tu l'as pas vu. Hein.
Mais il connaît la fin.
C'est mort.
Mais du coup, tout ça pour dire que Kevin Spacey est un acteur qui sait bien jouer les méchants.
Ces deux films, Seven et Usual Suspect, sont sortis au même moment, donc t'avais vraiment. T'es en mode, il est méchant. Aujourd'hui, on sait que c'est vrai en plus, mais à l'époque, on savait pas.
Autant dans Usual Suspect, ok, c'est un bon méchant, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il est dans mon top 3 perso. Mais autant, tu vois, dans Seven, je trouve que. On parlait de charisme, par exemple.
Charisme, c'est le rappeur qui veut se battre contre Booba.
Non, charisme.
Ah, pardon, j'avais pas le. Très bien.
Il a un charisme pourri, je trouve, dans Seven, tu vois.
Mais justement, c'est ça qui est incroyable parce que.
C'est un petit gars, quoi.
Parce que oui, c'est un petit gars. Et malgré le fait que ce soit un petit gars, il réussit à faire des choses qui mettent dans l'embarras tout le monde.
Est-ce qu'il peut être le meilleur méchant en étant un petit gars? Tu vois, c'est ça le truc.
Tu veux savoir si
tu peux être un méchant, Cyrus?
Non, mais je veux dire.
Non, mais en tout cas, c'est un sujet intéressant parce que tout à l'heure, tu as posé la question. Et là, de mémoire, j'essaie de me souvenir quel méchant finalement a réussi à battre le héros. Et là, j'arrive pas vraiment à trouver. Et finalement, le méchant de Seven est celui-là. Il faudrait que je me penche là-dessus, mais il y en a.
Il y a celui de Usual Suspect.
Bah ouais, mais je suspecte que le méchant est le héros, tu vois. Est-ce que dans Seven, le méchant est le héros ou c'est vraiment deux entités différentes?
Le méchant de Seven n'est pas le héros.
Okay. Non, ouais. Dans Usual Suspect, pour moi, le héros, c'est pas vraiment Kevin Spacey. Le héros, il n'y a pas de héros.
C'est l'inspecteur, quoi.
Ouais, voilà, il n'y a pas de héros.
Même en attendant le twist, tu t'attaches quand même plus à Kevin Spacey qu'à l'inspecteur, quoi.
Oui.
Tu te dis c'est lui qui a été victimisé, enfin tu vois, t'es un peu plus.
Mais bref, tout ça pour dire que la plupart des méchants sont quand même pétés, tu vois.
Ouais, je suis pas d'accord.
Même Dark Vador, moi je trouve que tu vois.
Je suis pas d'accord non plus parce que je me suis réservé un méchant pour cette émission, on en parlera plus tard. Mais il y a des grands méchants. Il y a des très très grands méchants.
Oui, et de toute façon, le méchant est créé par essence pour être un faire-valoir du héros, tu vois. Enfin,
d'ailleurs,
mais je suis d'accord avec ça, et c'est justement pour ça que je trouve qu'ils sont. Ils sont globalement. Autant les héros, il y en a qui me font rêver de ouf. Il y a jamais un méchant genre où je me suis dit jusqu'au bout, il est oufissime.
Genre le Joker, non?
Si. Une grande méchante pour moi, c'est la Nurse Ratched dans le film Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et là encore, enfin, j'ai pas vraiment envie de spoil, mais là on a aussi un exemple de méchant qui l'emporte à la fin.
Spoil. Parce que du coup, il y a un petit spoil en fait.
C'est un petit spoil, mais pas vraiment, parce que quand on connaît pas le film, là ça veut un peu rien dire ce que je viens de dire.
Okay.
Mais ouais, là encore un exemple d'un méchant qui l'emporte à la fin et qui est un méchant vraiment glaçant.
Voilà. Alors, c'est marrant parce que j'ai une meuf méchante aussi qui est dans ce même top 3.
Mais c'est ton ex. Rien à voir,
hein. Rien à voir avec le thème de l'émission.
Non, c'est pareil, elle est glaçante quoi. Tu vois, j'ai l'impression que les meufs sont beaucoup plus psychologiques.
T'as pas dit le nom de la
Alors,
meuf.
Ouais, bah, j'ai en tête deux meufs, peut-être que c'est celle-là.
Vas-y, Cyrus, c'est laquelle?
Donc je le dis.
Je peux te le dire si c'est celle-là ou pas?
Vas-y.
J'ai pensé à Kathy Bates dans Misery.
Yes.
Ou...
Ouais, voilà. Mais c'est marrant, tu sors toujours les noms d'acteurs, jamais le nom du perso. Très rarement.
C'est plus simple
à retenir le nom des acteurs parce qu'ils ont.
C'est Annie Wilkes.
Oui, c'est plus simple de retenir Kathy Bates que.
Ouais.
Est-ce que tu veux pitcher Misery?
Non, mais j'y pense parce que tous les films que t'as fait pour l'instant, genre, je me dis, c'est marrant, à chaque fois tu donnes le nom de l'acteur.
Bon, en même temps, soit nous on donne rien, ou soit on donne le nom de l'acteur. C'est compliqué de.
Ouais,
mais c'est vrai qu'il y a un vrai gros méchant de ouf.
C'est pas un reproche. Hein.
Parce que moi, en réfléchissant à la liste, il y avait des noms des méchants auxquels je pensais, et je me disais en même temps, j'ai pas son nom. Je me disais du coup, mérite-t-il.
Est-ce qu'il t'a marqué autant que ça?
Tu vois, genre par exemple. Je suis désolé, ça fait comme si le mec faisait une fixette, mais pas du tout. Mais je vous dis, le moment où j'ai eu le déclic.
Mais tu fais une fixette, mais
tu
c'est pas
une
grave.
Fixette,
tu peux faire une fixette.
Non, mais le moment où j'ai fait le déclic, c'est quand t'as dit c'est comme Anthony Hopkins dans Le Seigneur des Agneaux. Alors que, genre, bah,
le silence. Personne n'arrive à dire.
Non, tout le monde se trompe là-dessus.
Ah, moi, ouais. J'y arrive pas, j'ai arrêté.
Misery, vite fait, qui vaut le coup d'être pitché.
Donc, Peach, c'est un écrivain qui se fait kidnapper par une fan. Et la fan veut le pousser à écrire plus, etc. Et du coup, elle lui fait des sévices, elle l'empêche de sortir, etc. Machin. Et il y a un jeu psychologique qui se crée. Et voilà. L'idée, c'est l'évasion de ce mec-là avec cette folle alliée qui est chez lui. Enfin, qui est chez elle, du coup. Et lui, il est chez elle aussi. Voilà, je me suis embrouillé.
Et
c'est devenu un synopsis.
Kathy Bates qui prend l'Oscar de la meilleure actrice sur ce rôle-là.
On lui a pas donné quoi, la meuf là.
Ouais, elle l'a pris directement. Ouais. C'était prévu pour Anémone à la base et elle est montée sur scène, elle l'a
Ils
pris
ont
des
fait,
mains.
C'est la meuf de Misery, ça se trouve, elle est vraiment folle. Ouais. Laissons la faire.
Ils ont dit, ok, on lui laisse.
Mais elle est ouf, hein, elle est ouf dans ce film.
Mais ouais, les méchantes sont glaçantes. Moi dernièrement, j'ai vu Gone Girl que j'avais jamais vu.
Ouais.
J'ai plus le nom de l'actrice qui joue la femme dans Gone Girl. Je me trompe vers JB qui est l'expert.
Non, mais attends, dans Gone Girl, donc c'est Ben Affleck, c'est ça?
Ouais.
Ouais.
Tu dis ça parce que tu ressembles à Ben Affleck en fait. T'as envie
qu'on en reparle.
Mais oui. Non, j'oublie le nom de l'actrice dans le film.
Alors, il y a Emily Ratajkowski, mais c'est pas elle.
Ouais, non, c'est vrai. Mais ça aurait pu être le meilleur rôle mal joué d'Emily Ratajkowski, qui joue quand même pas très bien. Et cette meuf là, pareil, dans Gone Girl, est incroyable quoi. Moi, en termes de méchantes qui m'ont marqué, la meuf de Gone Girl.
Je trouve pas que c'est une méchante, entre guillemets. C'est
un mec.
Elle est hyper. Non, mais attends, elle est méchante, mais c'est pas une méchante au sens scénaristique. Bon,
elle est quand même
narration.
Elle est machiavélique quoi. Enfin.
Ouais, mais je veux dire, elle
a pas le masque de Dark Vador. De Dark Vader,
oui, voilà.
Je veux dire, c'est ça quoi.
C'est Rosamund Pike.
Exactement.
Merci Alex.
Merci
notre,
Alex,
notre
ingé son.
C'est peut-être parce que c'est une femme et que t'as du mal à considérer que les
D'ailleurs,
femmes.
D'ailleurs, Alex, n'hésite pas à intervenir avec le micro, hein, mec. Hein. N'hésite pas. Hein.
Pas de souci. Hein.
Il nous fait des signes, on comprend pas ce qu'il fait. C'est non. Apparemment,
non,
c'est non.
Il veut pas. Parce qu'il dit quoi? C'est de la merde notre émission. Ok, ça marche. Très bien. On fait comme ça.
Une autre méchante qui m'a vraiment marqué, c'est Glenn. Et là, je vais balancer un nom d'acteur. Tu vas être ravi. D'actrice Glenn Close dans Liaison fatale avec Michael Douglas. Pour ceux qui ne connaissent pas ce film, c'est l'histoire d'un type qui trompe sa femme durant son absence et qui se retrouve à coucher avec une femme qui finalement est complètement folle et qui va lui faire vivre un enfer après, qui va s'introduire dans sa vie privée, etc. Et elle est complètement folle dans ce film. Et là, pour le coup, c'est vraiment terrifiant parce qu'on n'est pas face à une méchante qui a des super pouvoirs ou qui a un truc qui fait qu'on retrouve des méchants traditionnels dans les films. Et voilà, elle va tout faire sur l'emprise psychologique, sur les coups de vis, etc. Et c'est vraiment terrifiant. Je ne sais pas si vous avez vu ce film.
Coups de vis, genre c'est du bricolage.
Oui, voilà. C'est-à-dire qu'elle prend des vis.
Ok, d'accord. Comme Misery un peu.
Exactement. Et oui, je sais pas si vous avez vu ça, mais c'est vraiment bon.
Non,
vraiment.
J'ai pas vu,
incroyable méchante. La scène du lapin dans la casserole, j'en dis pas plus.
Ça donne envie de le voir.
Ça donne envie de le voir.
Mais c'est de langage.
Et c'est intéressant parce que là, c'est une méchante sur un mec qui a fait un truc méchant entre guillemets.
Exactement.
À la base.
Exactement.
Donc le méchant.
Non, mais il a raison. Il a raison. Il a raison.
Moralement, c'est quelque chose.
En fait, il a raison de le préciser parce que.
Jugement de valeur, Cyrus.
En
fait,
c'est vrai.
En fait, il a raison de le préciser parce que ce qui est cool avec ce film, c'est qu'au final, on a finalement pas mal de dégoût pour Michael Douglas parce qu'il trompe sa femme, qui est très sympa dans le film. En plus, sa femme, je crois, part chez sa mère avec la petite fille qui est toute mignonne, etc. Donc on se dit, putain, mais quel bâtard de la tromper et tout. Et au final, elle lui fait tellement la misère, Glenn Close, dans le film, qu'on a de d'empathie et de la peine pour Michael Douglas. Donc du coup, ça joue sur deux sentiments, ça, ouais, c'est intéressant.
Et ça, en tant que scénariste, je l'ai vu tout de suite. Voilà. Désolé, les gars. Désolé, Tom et Aurélien, là. Voilà.
Aurélien, je te propose. Aurélien, c'était une intonation très
oui, sympa.
Ouais, c'était aimé. Hyper enjoué et tout.
Ouais.
Je te propose qu'on commence un petit peu à parler du meilleur méchant. C'est lequel pour toi? Je sais que tu as hésité longuement, peut-être même juste avant que cette émission commence. Peut-être que tu là, hésites encore.
Voilà, là, tu es encore en train de faire ta phrase. C'est bon, j'ai. Allez, on va parler avec le cœur. Moi, je vais dire Hans Gruber. De Die Hard, de Piège de Cristal.
Voilà. Ok, excellent.
Et je vais me battre avec vous pour que ce soit lui.
Je pense pas que ce sera lui qui va gagner.
Ah bon, ouais, ah ouais, tiens,
je te le dis, il est comme ça. Est-ce que tu peux, pour le vendre, raconter un petit peu le film vite fait et ce que lui, quel est son rôle de méchant dans le film et pourquoi c'est un méchant de ouf?
Alors, donc c'est dans Piège de Cristal, pour ceux qui savent pas, Die Hard 1, le tout début de cette. Je sais pas comment on dit, de cette.
Saga.
Saga.
Enfin, Saga, c'est une émission avec Stéphane Bern, je suis pas certain que ce soit.
Non, aussi, c'est pareil, je crois. C'est pareil.
C'est aussi une chanson avec Yannick Noah.
Ouais, exactement. C'est une console de jeu aussi. Allez, oui, on arrête ça. Ouais.
Après, moi, personnellement, il m'est cher parce que c'est un des premiers. Enfin, c'était quand j'étais gamin. J'étais à fond sur ce film et que. Donc, il incarne un peu comme ça ce truc de méchant et qui, encore aujourd'hui. C'est un film qui a très bien vieilli et que je vois souvent. Donc, forcément, il a une place privilégiée dans mon cœur. Enfin, même s'il est méchant. Et après, ce qui est cool avec lui, c'est que c'est le méchant classe. Alors, je suis pas un expert en cinoche, donc je sais pas s'il y en a eu 20 000 avant. Mais ce qui dénotait, c'est que c'était tout d'un moment. L'histoire, c'est que c'est un mec, c'est une tour prise en otage par des terroristes dans lequel ils ont pas de chance. Il y a Bruce Willis qui est là, il y a John McClane qui est là, alors qu'il devrait pas et qui du coup va pas les laisser faire leur prise d'otage. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il débarque, mais il débarque en costard, hyper classe, en mode je suis allemand, je suis hyper classe. Je suis beau gosse, j'ai ma petite cravate et tout machin.
Comme
mais,
tous les méchants dans James Bond à peu près.
Mais j'ai une pression psychologique et je peux buter le patron en deux secondes. Nakatomi, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Ou alors c'est le nom de sa tour et c'est pas le nom du gars.
Nakatomi Plaza.
Ouais, c'est là. Donc le mec qui bute s'appelle Nakatomi.
Ouais, il est propriétaire du building.
Exactement.
Pas mal.
Et tu comprends vite que le gars il rigole pas parce qu'ils viennent pour ouvrir un coffre. Il demande le code au gars et le gars il dit je l'ai pas, vous allez devoir me tuer. Il le tue. Et tu fais ah ouais. Faut toujours un truc comme ça, un peu
ouais,
de badass.
Pour marquer directement.
Le mec, il est vraiment,
c'est l'inverse
vraiment
de Save the Cat.
Et après...
Tu vas nous expliquer après, Cyrus.
Avec plaisir.
Ce qui est culte avec lui, c'est déjà son nom reste, Hans Gruber. Quand tu dis Hans Gruber, ça reste, quoi.
Non, j'avais déjà oublié.
Après, t'as raison de dire ça, parce que je trouve qu'à l'époque, les scénaristes arrivaient à bien trouver des noms pour les méchants. Parce que, par exemple, dans Robocop, Clarence Boddicker, ça, c'est un nom qui reste aussi, ouais, tu vois. Et Hans Gruber, c'est un nom qui reste.
Bah ouais, ça reste de ouf. Ouais. Et après, il est rendu culte aussi parce que, déjà. Enfin, en même temps, c'est par exemple Dark Vador. Je pense qu'il y en a plein qui diront que c'est lui le plus grand méchant de l'histoire du cinéma. Mais pourquoi? Parce qu'il est toujours là et qu'il est là depuis les années 70. Donc forcément, le mec, il est présent sur 40 ans.
Il est culte.
Et voilà. Donc forcément, il a vache. Mais en même temps, comme il est là depuis longtemps, ça le désacralise aussi un peu. Tu vois, tu le vois sur des pubs pour Disney. Tu le vois. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu. Voilà. Forcément, on en a bouffé du gars. Alors que Hans Gruber, tout comme le Morning Live qui s'est arrêté très vite, il est culte parce que je m'en fous, je vous spoil, il meurt à la fin du.
Enculé.
Ah, parce que je pensais que c'était Michael Youn qui jouait son rôle, du coup, pas la ref.
Et de la même manière, tout comme il y a des gars, genre par exemple, je parlais tout à l'heure de Christopher Waltz dans Inglourious Bastard, moi qui m'a traumatisé et que je trouve fou, mais je sais plus ce qu'il devient à la fin du film, tu vois, est-ce qu'il meurt, est-ce qu'il
t'es vraiment traumatisé, genre t'es en position comme ça.
Je me disais putain, horrible quoi, tu vois, enfin bref, le gars, voilà, mais je sais pas en même temps ce qu'il devient, quoi, alors que Hans Gruber, ce plan de lui qui tombe, je m'en fous, je balance tout, parlons des trucs, quoi, plan de lui qui tombe d'une Nakatomi Plaza, c'est une image que t'as en tête, et du coup ce gars, et en plus dans le 3 c'est son frère qui vient se venger, donc ce qui le remet, tu vois,
ce qui recrée la mythologie,
on reparle de lui et machin et truc et tout, donc
d'ailleurs pour l'anecdote, s'il joue aussi bien cette scène du lâcher de main à la fin de Gruber, c'est parce que le réalisateur, donc John McTiernan, avait fait en sorte de ne pas lui dire, parce qu'il y avait un petit espace, forcément il est pas tombé du haut d'une Nakatomi Plaza, mais il y avait quand même un petit espace, peut-être 2-3 mètres. Et en fait, il lui avait dit, voilà, je lâcherai ta main à partir de 5, donc à ce moment-là, tu peux jouer. Et en fait, il a lâché au bout de 1. Donc du coup, la surprise qu'on voit sur la face de Hans Gruber dans le film, c'est incroyable. Sa vraie surprise, en fait.
C'est fou.
Donc ça, c'est drôle.
Ok, donc pour toi, meilleur méchant, parce que film culte, classe, sang-froid, die-hard. Cyrus, que tu me parlais de ton méchant, mais avant, tu as name-droppé Save the Cat. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est?
Alors en gros, Save the Cat, c'est toi qui me l'as appris, Tom. Je
rendons à César ce qui est à Tom, quoi.
Non. En gros, Save the Cat, c'est souvent les héros dans les films, dans les premières minutes du film ou les premières minutes où on voit le héros, en tout cas, ils font une action, genre type sauver un chat, qui fait que tu dis ah il est vraiment gentil. Tu vois, genre par exemple si tu regardes Three Billboards, la meuf elle est dans le truc où elle achète les billboards justement, et il y a un petit cloporte qui est sur le rebord de la fenêtre et qui est genre sur le dos à galérer, et elle le remet juste droit. Tu vois, c'est une petite touche, tu vois, mais ça fait que toi dans ton inconscient tu te dis elle a un bon fond, tu vois. Ça c'est Save the Cat. Et donc toi ce que tu viens de dire là avec l'exemple de bah du coup j'ai oublié son nom, c'est quoi déjà ce Hans truc Gruber. Mémorable, ah oui, Hans Gruber.
Qu'est-ce qu'il est méprisant, putain.
Hans Gruber, quand tu dis
je genre... connais aucun nom, ta daronne s'appelle comment
elle s'appelle pas Hans Gruber en tout cas. Quand tu dis
c'est Kill the Cat quoi,
voilà, quand tu dis ouais le coffre machin, bah si vous voulez savoir tuez-moi machin, voilà, et le mec le tue sans froid. C'est l'inverse de Save the Cat, quoi. C'est que dès les premiers instants, il faut rendre le méchant vraiment méchant.
Et au début du film, je l'ai pas dit, mais il y a un cloporte qui est dans le bon sens et il le retourne. Et c'est le même qui
le méchant de merde.
T'as des sentiments hyper ambivalents tout le film. Tu sais plus comment te situer.
Non, mais il le retourne à l'envers.
Ah, ok, pardon.
Et 30 énorme. Ans plus tard,
t'es le méchant de merde.
Dans Three Billboards, il le remet dans le bon sens. Merde.
Moi, je suis méchant, je retourne toutes les tortues. Alors, méchant horrible. Du coup, c'est qui ton méchant, le meilleur méchant pour toi, Cyrus?
Alors, ma première pensée, et ça sera pas lui, mais c'est juste pour le name dropper parce que je pense que ça manque de cartoon. Depuis le début, on n'a pas parlé d'animation.
Christopher Lloyd.
Et moi, c'est Scar.
Ah.
Je trouve que Scar, c'est un putain de méchant.
Parce qu'il met de la distance avec ses méfaits, je pense. Non, moi, mais... c'est ça qui me fait flipper chez Scar. C'est qu'il est toujours très en distance, beaucoup de recul sur ce qu'il fait.
Bah, c'est pas le fait qu'il tue son père qui.
Bah, son frère, lui, il tue son frère.
Son frère, voilà. Enfin, le père.
Ça, j'ai pas trouvé ça trop méchant. Moi, c'était plus le fait qu'il parle mal à Zazu, surtout qu'il m'a. Vraiment, j'ai dit là, c'est un peu limite.
Non, mais en vrai, Scar, je trouve très bon méchant Disney, quoi.
Mais encore une fois, cicatrice, donc c'est toujours le racisme.
Et il s'appelle Scar.
Bah ouais, le mec s'appelle cicatrice carrément.
Voilà, c'est ça, c'est ça.
Par contre, Aurélien a eu raison de mentionner Christopher Lloyd, donc dans Roger Rabbit,
le juge de mort.
Voilà, exactement.
Il me traumatisait, moi.
Et ce qui est traumatisant avec ce mec, c'est qu'il a quand même eu l'audace de tuer des toons. Et quand on regarde ça en tant qu'enfant, que ce mec tue des dessins animés, je crois que dans le film, c'est des chaussures qui fait fondre
dans la trempette.
Et là, on se dit, le type tue des dessins animés, donc il est horrible, quoi.
Ouais, c'est clair.
Super méchant, d'ailleurs. Et Roger Rabbit, super film. Je sais qu'on, non, je trouve que c'est un film qu'on parle pas très souvent, donc j'ai revu il y a pas très longtemps et qui est hyper bien vieilli.
Super film.
De Zemeckis. Et voilà, on vous conseille.
Ah, c'est Zemeckis aussi ?
Ouais. Et Christopher Lloyd est glaçant dedans.
Et c'est le genre de film qu'on peut écouter, alors Jobs qui est vieux, mais qu'on peut écouter en VF, parce que la VF de Christopher Lloyd est vraiment cool.
Donc excuse-nous si c'était une petite parenthèse sur ton exposé.
Donc Scar, on laisse tomber, mais voilà, je trouvais ça marrant de citer un mec de cartoon et tout, qui est un personnage tiré de Hamlet en fait au final, hein, parce que l'histoire du Roi Lion, c'est la même que... c'est vraiment calqué sur Hamlet. Donc c'est des vrais méchants de littérature et tout.
Et sur un manga aussi, le Roi Léo, j'ai pas trop la rêve, mais il y a cette histoire aussi de plagiat d'un manga aussi initialement.
Oui, mais là je parle vraiment de l'histoire de genre le roi.
De toute façon, tout est pompé sur Hamlet.
Ok. Ouais.
La vérité, si je... non. J'essaie de lancer une nouvelle théorie du cinéma.
Et Ventura, pompé sur Hamlet.
Ouais, pas mal.
Il y a juste Hamlet qui est pas pompé sur Hamlet, c'est le seul truc.
Et non, après il y avait donc cette meuf Annie Wilkes de Misery et en fait au final, je pense que le meilleur méchant, je crois, hein, peut-être que je change d'avis, peut-être que JB ou toi, tu voulais me faire changer d'avis.
Faut que tu sois plus vindicatif si tu veux qu'on les lise.
Mais mais je suis pas dans le, je suis pas dans la défense. Je suis plus dans le, on essaie de trouver ensemble.
T'es pas un vrai méchant, quoi.
Ouais, non, je suis pas méchant. Ouais. Moi, c'est Kaiser Saucé, c'est-à-dire le méchant de Usual Suspect, en fait. Parce que je trouve que ce qui est ouf, et donc désolé, je vais reparler de ce film en spoilant, etc.
Un poignard de plus dans le dos.
Mais oui.
Voilà, désolé. Mais en gros, ce qui est ouf, c'est que tu vois jamais Kaiser Saucé, tu vois jamais son visage, tu vois tout ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'on te dit oh il a fait ci, il a fait ça, il était craint, tu vois les gens qui pleurent à son arrivée, tu vois les maisons en feu quand il part, etc. Tu vois sa silhouette et tout, mais tu le vois jamais, tu sais pas trop pourquoi il fait ça, tu sais pas trop qui il est, mais juste son nom fait peur, tu vois, et genre c'est Kaiser Saucé, tu vois, genre les gens flippent putain de sa race. Et même à la fin quand tu comprends, donc là je spoil de ouf, hein, là j'y vais. Hein.
Ouais, vas-y. Oh, tant pis, allons-y.
C'est sûr ?
Mais non, mais vas-y.
Tu t'es fait une raison déjà.
Mais non, mais vous. Vas-y.
Sûr ?
Vraiment.
Je peux ne pas le faire.
Mais non, mais vas-y, fais-le.
Ok. Mais t'es sûr ?
Mais oui.
Ok.
Oh, le lourd.
Quand tu vois que, tu sais, quand à la fin il arrive à. Quand il raconte son histoire, machin, etc. Et ensuite les gars comprennent qu'en fait tout ça c'était dans le cerveau de Kaiser Saucé. Et que le mec se barre et qu'il passe de boité et petit à petit, en fait, il marche normalement. Et qu'à partir de là, tu vois plus son visage en fait. Tu le vois de dos ou machin, ou tu vois ses pieds, mais tu le vois plus parce que c'est redevenu Kaiser Saucé, et Kaiser Saucé, on ne le voit pas. Tu vois. Et en fait, je trouve que ce méchant est ouf parce que je le trouve puissant, parce que je le trouve charismatique, parce que je trouve que il est
machiavélique.
Il est machiavélique.
Il gagne à la fin.
Il gagne à la fin.
Il a battu tout le monde, même le spectateur.
Il a battu tout le monde, même le spectateur, même le même la meuf qui fait le catering. Il l'a battu à un moment. Je sais pas si t'as vu. Enfin, vraiment, il écrase tout le monde.
Et on retient son nom.
Et on retient son nom.
Mais
sans le voir.
On retient son nom parce que ça ressemble à Franck Sauzet aussi.
Oui, aussi, c'est vrai.
Franck Sauzet.
Cyrus aura pas la ref, mais
non.
C'est un joueur de foot des années 90.
Mais quand tu dis Cyrus Apparaf, je sais
ouais,
que c'est un joueur
c'est
de
pour
foot.
Ça.
La ref ici ou pas,
genre emblématique de l'OM.
Ok.
Accessoirement, entre autres.
C'était un gentil.
Oui.
Et
oui.
Bref, pour moi, tout ça, ça fait que c'est. Alors, c'est difficile parce que pour moi, le meilleur méchant, il a forcément ce côté culte et je sais pas si Kaiser Sosé est là, mine de rien. Tu vois,
si, quand même, tu vois, il est présent dans des sons de rap et tout, il est souvent recité dans la culture populaire.
Mais par rapport à un Dark Vador, à un Voldemort, par rapport, tu vois, à Sauron.
C'est une forme humaine aussi. Tout ce que tu cites ouais. aussi, c'est des formes extraordinaires, donc t'as envie de plus associer. Là, le fait que ce soit un homme, comme pour moi, Kathy Bates dans Misery, c'est là où c'est fort, c'est que tu te dis, ok, ça peut être mon voisin.
Et oui, je trouve que c'est cette sensation-là qui est flippante. Ça, moi, le personnage d'Annie Wilkes, ce que j'adore dans ce personnage-là, c'est qu'effectivement, il est tellement réaliste. C'est-à-dire que ça pourrait être quelqu'un que tu croises dans la rue. Alors que Kaiser Sosé, il a ce côté un peu quand même mythique, quand même mystique, tu vois, genre.
Après, une des raisons pour lesquelles il revient pas très souvent dans les classements de méchants, c'est qu'on met pas forcément un visage sur Kaiser Sosé, du coup.
C'est
J'ai l'impression qu'on met plus une tasse que le visage de Kaiser Sosé. C'est plus la scène de la tasse qui tombe, moi qui ne l'ai pas vue, mais du coup, j'ai vu la fin. On retient plus la tasse et le plan sur ses jambes à la fin plutôt que le visage de Steve.
Alors moi je retiens beaucoup plus sa silhouette pour le coup avec les cheveux qui volent.
Ça j'ai pas vu.
Tu sais là les cheveux longs avec les feux derrière et tout. Je sais pas si vous voyez ces scènes.
Non j'ai pas cette image.
Ah ouais putain. Alors, ça m'a choqué moi.
Mais j'ai l'impression que en fait pour toi c'est un bon méchant au-delà du personnage, surtout le traitement du personnage que tu mets en avant, j'ai l'impression.
C'est pas faux, c'est pas faux.
Plus que l'essence même du personnage.
Mais en fait,
qu'au final, il a pas des atrocités ou un plan plus dark que Javier Bardem dans No Country for All Men ou
si,
tu
parce
vois.
Qu'il arrive, il détruit des familles entières. Le peu d'instants que tu vois de Kaiser Sosé, il est vachement balèze quand même. Il fait plus de mal que Javier Bardem dans No
Country
for All Men.
C'est un exemple, mais ok. Avis entendu.
Ok.
JB, toi, c'est qui pour toi le meilleur méchant?
Bah justement, comme Cyrus, j'hésitais pas mal. Au début, je voulais choisir l'infirmière dans Vol au-dessus d'un coucou. Mais finalement, je me suis tourné vers le T-800, donc Arnold Schwarzenegger dans Terminator 1. Moi, j'ai grandi dans une famille assez jeune, parce que ma mère m'a eu à 20 ans. Elle était avec notre babysitter qui lui avait 18 ans. Et du coup, à la maison, on avait le droit de regarder des films que mes amis n'avaient pas le droit de regarder. Et parmi ces films, Robocop, Terminator, Freddy Krueger, tout ça. Et donc moi, tous ces films-là, je les ai vus quand j'avais 8, 9, 10 ans. Ce qui est bien avec ça, c'est que tu les vis intensément, ces films, en fait. Parce que c'est un jeune enfant qui n'a pas le droit de regarder ça et qui se dit « Waouh, c'est incroyable ce que je regarde à l'écran ». Et le T-800, je l'ai choisi parce que, tout d'abord, c'est un méchant qui m'a terrorisé, qui m'a terrifié quand j'étais petit. Et finalement, ce qui m'a terrorisé chez lui, c'est que cet homme est une machine. Et en fait, cet homme est programmé pour quelque chose.
Est-ce que tu peux raconter?
Oui, je vais
raconter brièvement le film.
Terminator 1, c'est l'histoire d'un. Donc, ça se passe dans les années 80 aux États-Unis. Et le personnage principal est interprété par Linda Hamilton, donc Sarah Connor. Sarah Connor, c'est un nom qui parle quand même pas mal à tout le monde, même si on ne connaît pas Terminator. Ça revient souvent dans des blagues, d'ailleurs, dans la Cité de la Peur, dans plein de films. Et donc, Sarah Connor est en fait un type qui s'appelle Kyle Reese. Un jour l'attrape et lui dit voilà je viens du futur pour te protéger car un robot a été envoyé du futur et en fait son but seul est de te tuer voilà. Donc elle forcément elle y croit pas vraiment mais finalement elle s'en rend compte et puis elle suit ce type et donc voilà ça c'est un peu le pitch du film et en gros la raison pour laquelle j'ai choisi ce méchant c'est parce que il est programmé pour tuer, c'est à dire que ce type là est programmé pour tuer cette femme Sarah Connor et tant qu'il n'aura pas réussi à la tuer, il continuera toujours, jusqu'à finalement, même pas jusqu'à la mort, parce qu'il ne peut pas mourir. Et puis c'est interprété par Arnold Schwarzenegger, donc une montagne de muscles dans le film, donc ça c'est assez impressionnant aussi. Et voilà, moi ce qui m'a terrifié dans ce méchant, c'est de me dire que ce type est programmé, voilà, comme j'ai dit juste avant. C'est-à-dire qu'en fait, il n'arrêtera jamais.
Ouais.
C'est son seul but. C'est-à-dire que les autres méchants dans les films, bon, ils ont des buts, ils veulent conquérir le monde, ce genre de trucs. Mais lui, il a un seul but, c'est tuer une meuf en fait. Il s'en fout du reste, c'est-à-dire qu'il n'a pas de sentiment. Son seul objectif, c'est de la tuer. Et même si tu peux te cacher au Pérou ou en Ukraine ou n'importe où, et ben lui il va continuer jusqu'à ce que tu meurs en fait. Et voilà, super méchant, et super méchant aussi parce que au début du film, il arrive à poil donc à Los Angeles, et en fait il rencontre trois punks, donc qui étaient les Kaira de Los Angeles un peu, et finalement il les défonce en deux secondes, et c'est là qu'on comprend que bah ce mec il est imbattable quoi, il se prend des coups de couteau.
Kill the cat.
Ouais voilà, donc tout de suite on comprend que le mec il est intuable.
Ok, merci pour ces précisions. Cyrus, t'avais une objection, vas-y.
Je t'attends. Okay.
Non, alors j'ai une question et une objection.
Yes.
La question c'est pourquoi ce serait pas. Enfin, est-ce que t'as pensé au méchant dans Blade Runner? Qui. Donc, je trouve qu'il y a pareil, donc ce truc de programmer, machin, etc. Mais qui en plus fait tout un. Il y a un speech de fin incroyable contre l'humanité, etc. Blablabla. Et je trouve que ce méchant est ouf.
Bah, je vais dire pourquoi, parce qu'en fait, ce méchant dans Blade Runner, moi, je le trouve émouvant à la fin. Je le trouve touchant, et en fait, le fait de le trouver touchant, ça le rend moins méchant à mes yeux. Alors que le T-800 n'est à aucun moment touchant. Tout ce qu'il veut, c'est tuer, vraiment.
C'est une machine.
Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'objection. Mon objection, elle est... Mon objection, elle est plus sur le fait de... Genre...
Monsieur Bourdin, pardon.
C'est clair. philosophiquement, en gros, si... Il est programmé.
Boring.
Si ton méchant.
Toi, est... Si t'étais un méchant, ton pouvoir ce serait la philo. Tu utiliserais ça pour.
Non, mais si ton méchant.
Pour affaiblir les gens.
Si ton méchant est programmé.
Ouais, question... C'est déjà ce qu'il fait.
Mais... Tu t'es déjà posé une question éthique sur ce que tu fais.
Non, mais si ton méchant est programmé, c'est que du coup il est déterminé, il a pas de liberté, etc. Et donc il choisit pas d'attaquer Sarah Connor. Est-ce que tu trouves pas qu'un méchant est beaucoup plus puissant et que genre c'est beaucoup plus. Il est beaucoup plus méchant quelque part s'il choisit de faire le mal? C'est ce que je veux dire. Moi, je pense qu'un méchant, c'est un vrai méchant s'il choisit de faire le mal alors qu'il pourrait faire le bien.
Bon argument.
En fait, ce que je pourrais te dire, c'est que...
Va te faire foutre. C'est vraiment le meilleur argument, moi, je pense, à ce moment-là.
Non, mais en fait, dans un méchant, somme toute, assez classique, il y aura, quoi qu'il arrive, une petite part de sentiment, forcément. C'est un être humain. Là, ce n'est pas un être humain, donc il y a zéro sentiment. Et ça, on le sait quand on voit ça.
Ouais.
N'importe quel méchant, moi, quand je le vois, je me dis, bon, ce type-là est... affreusement méchant, mais possiblement s'il rencontre la bonne personne, peut-être qu'il changera et peut-être qu'il deviendra un peu plus gentil. C'est impossible avec le T-800 en fait. Tu ne pourras pas le faire changer d'avis. C'est-à-dire que tu le mets autour d'une table, tu essaies de lui expliquer avec quelques arguments que c'est pas très cool de tuer Sarah Connor. C'est impossible en fait. Tu pourras pas, c'est une machine que t'as en face de toi.
Je pense que Cyrus il se dit que en si. Fait... Avec la philo.
La philo ouais.
non, mais en fait, je pense qu'effectivement tu peux pas. Mais tu vois, genre, il y a plein d'autres méchants, genre par exemple Javier Bardem dans No Country for Old Men ou même Kaiser Sose, je pense, où genre tu peux pas non plus, mais pas parce qu'il ne peut pas, parce qu'il ne voudra pas, tu vois. Et genre,
ça on le sait pas.
Ça,
en fait, toute la différence, non, c'est que ça, on ne le sait pas.
Alors qu'une machine, c'est scientifique.
Dans le film, il peut y avoir un truc à un moment donné où le gars arrête, tu vois.
Ouais.
Alors que le robot, tu sais que non.
Non, mais du coup, pour moi, il est pas. Enfin, pour moi, le vrai méchant, c'est le programmateur dans ce cas-là.
Mais d'ailleurs, tu fais bien de parler de Javier Bardem parce que finalement, c'est un personnage qui ressemble assez au T-800. C'est-à-dire qu'il a un but et il arrêtera jamais en fait.
Oui, mais
et
il est humain. Il est humain,
mais après, c'est pour ça que le T-800 est mille fois plus méchant pour moi, quoi. Parce que c'est une machine et que lui, on le sait.
Non, c'est marrant, Bardem, c'est marrant parce que pour moi, du coup, ça le rend moins méchant.
Bah, c'est plus effrayant. Je comprends que c'est moins excitant, voilà. Mais c'est plus effrayant.
En fait, si c'était la meilleure victime. Je t'aurais dit oui, effectivement, Sarah Connor, meilleure victime. Mais le meilleur méchant, pour moi, genre, c'est pas. S'il a pas le choix, ça fait pas de lui un vrai méchant.
Après, le T-800, c'est peut-être finalement un des rares méchants qui n'a pas de sentiment dans l'histoire du cinéma. Là, de mémoire, j'essaie d'en trouver un autre.
Je reviens de parler de l'iceberg dans Titanic, pas beaucoup de sentiments quand même.
Mais voilà, il n'en a pas. Et en ça, pour moi, c'est un argument quand même assez important pour le placer premier.
Okay.
Zéro sentiment.
Ok.
Je voulais vous proposer aussi mon choix.
Oui, c'est quoi ton choix?
On a name droppé très vite dans cette conversation.
Scar,
j'aimerais
c'est
revenir
Scar
dessus.
C'est Scar,
non, c'est pas Scar. Mais d'ailleurs, je voulais faire un point. Et c'est vrai que je pense qu'on a une génération marquée assez Disney. Enfin, en tout cas, Cyrus et moi, on est de 90. Je sais qu'Aurélien et JB, vous êtes un tout petit peu plus vieux.
Ouais,
mais
vous êtes né en 80, je crois.
C'est ça.
C'est petit.
Et JB, 72.
Et,
je suis né en 1983.
Pareil.
On peut le dire. C'est pas interdit.
T'es né en 83?
Je suis né en 90.
Ok.
Donc vous êtes de la même année, on est de la même année.
Yes.
C'est trop mignon.
C'est si
ah, vous êtes
mignon.
Toi aussi 83?
Ouais.
Ok.
Et
énorme.
Je sais pas si c'est pareil pour toi, Cyrus, mais moi, et je pense des gens qui nous écoutent, c'est vrai que les méchants de Disney, c'était vraiment les premières confrontations du mal et de l'injustice et tout ça. Moi, c'était des trucs qui ont été abusés.
Ah non,
vraiment
moi, c'était
des...
ma mère, vraiment. première confrontation.
Ça, ça. Moi, je sais que par exemple, une des premières scènes d'injustice, c'est les Siamois dans La Belle et le Clochard. où les chats siamois foutent le bordel et tout. Enfin bref, cette scène m'avait marqué. Et il y avait un autre Disney qui m'avait énormément marqué.
Ton enfant,
sur,
c'est tellement cool. Tellement,
oui, tellement à l'eau de rose. C'était mon plus gros problème.
Moi, mon problème, c'était les siamois.
Non, mais cette scène d'injustice où ils foutent le bordel dans la chambre, ils font accuser Lady et tout. Enfin bref, moi, ça.
Attends, on part sur eux là ou...
Non, c'est pas du tout mon choix. C'est, ça rentre dans mon cheminement.
Et le meilleur méchant, les siamois dans les Aristochats, bravo.
Et il y a un truc qui, pour moi, est un autre méchant qui m'a beaucoup marqué dans la Disney, c'est Shere Khan dans le Livre de la Jungle.
Ah ouais, putain.
Parce que c'est le méchant un peu comme les Khazars Sosés qu'on ne voit pas, qui arrive, je pense, au moins à la moitié du film, mais tout le monde te fait comprendre que c'est le pire méchant. Et je trouve que cette menace invisible qui est présente dans un film pendant assez longtemps pour créer cette peur du truc et tout, moi c'est quelque chose qui compte beaucoup et je trouve que c'est une autre stratégie que Kill the Cat, tu vois. Shere Khan, il est trop stylé et tout le monde le craint, même les méchants le craignent, quoi.
Ouais. Alors, Shere Khan, j'avoue, mec, et, évidemment, Shere Khan, incroyable méchant.
Non, mais attends, Shere Khan, c'est celui qui pratique l'hypnose, hein, c'est ça?
Non, ça, c'est K. Shere Khan, c'est le tigre qui vraiment toute la jungle est menacée par Shere Khan et tout le monde craint Shere Khan, quoi.
Ouais.
C'est vraiment la pire menace qui peut arriver. Tous les animaux, quels qu'ils soient, de leur taille, de leur force et tout.
Est-ce que tu essaies de me convaincre actuellement?
Non, pas du tout, mais c'est pas mon choix, encore une fois. C'est juste moi, c'est pour montrer un petit peu le moule, le type de méchants qui me font kiffer, qui pour moi vont un petit peu à l'opposé de Kill the Cat, parce que tu le vois pas dès le début, mais on te fait comprendre qu'il est méchant, comme Khazars Sosés. Et comme un autre personnage,
rejoindre à un moment donné
mon choix. Non, parce que je sais que j'ai un choix qui peut aussi t'intéresser. On en a parlé très vite, c'est Hannibal Lecter.
Ouais,
qui pour moi est le meilleur méchant au cinéma, parce qu'il y a cette dimension là où donc le film c'est le silence des agneaux, c'est l'histoire
Tu l'as bien dit du premier coup.
Ouais,
plus personne n'avait réussi depuis, hein.
Bravo.
Bah, j'ai brisé la malédiction, c'est bon, je vous ai tous libérés. Du coup, j'avais déjà parlé de lui dans l'épisode du meilleur monstre, mais c'est vraiment moi un méchant qui m'a fasciné. Je repitche très vite le film.
Il le retente dans chaque un épisode sur deux, il le retente.
Je l'ai mis dans le meilleur sportif aussi, et le meilleur album de rap,
et meilleure manière de gagner le loto, Hannibal Lecter aussi.
Meilleur mangeur de cerveau.
Yes, Hannibal Lecter. Et non, le pitch du coup du Silence des agneaux, c'est on suit une meuf qui bosse au FBI qui va enquêter sur
Jodie Foster.
Buffalo Bill, qui est
je t'ai coupé l'air sur le pied.
Oui.
Jodie Foster, qui va enquêter sur un tueur en série qui s'appelle Buffalo Bill et qui est un tueur à tendance un petit peu anthropophage.
Lui est un super méchant aussi.
Cannibal. Il fait flipper, lui est un très bon méchant, il fait assez flipper.
Quand il se déguise et tout, très flippant.
Il est pas cool. Et son habitat et tout est pas cool. Bref. Elle va enquêter sur ce tueur en série.
J'ai pas vu le. Est-ce que tu vas spoiler?
J'ai
vu le film d'après en fait.
Non, je vais pas spoiler. J'ai vu Hannibal le film d'après qui est beaucoup moins bien.
Qui est beaucoup. Je regrette. Moi, je pensais que c'était le premier en fait.
Non.
J'étais tellement déçu quand je l'ai vu.
Aïe.
Donc, une inspectrice du FBI qui enquête sur un mec qui a un serial killer et qui a un peu tendance à s'amuser avec le corps de ses victimes au moment de les tuer. Pour enquêter sur ce mec, on lui dit bah écoute, il y a un des hommes les plus dangereux qu'on a coffré. Il s'appelle Hannibal Lecter. C'est un psychologue, c'est un mec qui est très manipulateur, c'est un mec qui est anthropophage. Donc du coup on lui dit bah écoute, ce serait cool pour faire avancer l'enquête que t'ailles voir ce mec. Potentiellement il pourra t'en dire un peu plus. Par contre fais hyper attention, ne t'approche pas de la vite.
Parce qu'il pue de la gueule.
Il est dangereux, ne dis rien sur toi. Et cette mise en demeure, c'est pas cool cette technique de pourrir le pitch des autres pour pas qu'on vote pour leur méchanceté. C'est vraiment très faible, je voterai pas pour Khazars Sosés quoi qu'il arrive.
Désolé. Non mais vraiment c'était pas une technique préméditée. Je me rends compte que ça fait ça, je suis désolé.
Et donc voilà, et donc c'est la rencontre entre eux et c'est la liaison entre cet agent du FBI joué par Jodie Foster et Hannibal Lecter joué par l'excellent Anthony Hopkins qui vraiment livre une performance assez incroyable. Et tout le film est basé sur est-ce qu'elle va résoudre cette enquête, comment et à quel point elle va oser rentrer en relation avec Hannibal Lecter et le lien entre les deux. Et Hannibal Lecter pour moi est le meilleur méchant parce que déjà il est trop fort. C'est-à-dire que physiquement, mentalement et tout, c'est une brute. Il sait exactement où il va. C'est un fin psychologue. Il est classe.
Il a trois coups d'avance. Trois coups d'avance tout le temps.
Il a trois coups d'avance tout le temps. Et il y a vraiment cette crainte qui est palpable. Et je trouve qu'en tant que spectateur, ce que j'ai grave kiffé avec ce film, c'est que t'es perdu dans les sentiments que tu dois avoir pour lui. Parce que t'as ce truc de putain, c'est une brute, c'est un monstre, c'est écœurant. Mais il me fascine. Et je me dis, ouais, putain.
Et en même temps, il l'aide aussi.
Il aide aussi.
Et ça,
c'est ça
nous fait les mêmes.
Il y a de l'empathie aussi. Exactement. Il change, tu sais pas sur quel pied danser avec lui. Il y a vraiment un moment d'une scène à l'autre où tu vas dire putain, waouh, en fait il est bon, en fait c'est un monstre sans nom. Et cette ambivalence là que tu crées, ça crée un espèce de syndrome de Stockholm, tu vois. Tu es vraiment à la place de Jodie Foster dans ce film et tu ressens en même temps qu'elle ce qu'elle peut ressentir et tout. Et moi, c'est vraiment le méchant qui m'a le plus fasciné dans son architecture, dans la manière dont il est conçu, dans la performance d'acting aussi. On en a pas parlé, mais pour le coup, je trouve que c'est hyper bien interprété par Anthony Hopkins. Et à côté de ça, dans les procédés et ce qu'il fait, ouais, c'est un monstre sans pitié, quoi. Donc je trouve que c'est un méchant très bien construit et assez complexe et assez intéressant.
Et ce qui est incroyable avec ce méchant, c'est qu'il a marqué les gens, il a marqué les cinéphiles. Et pourtant, on le voit seulement 16 minutes à l'écran.
C'est vrai.
C'est que si tu mets bout à bout cette séquence, on le voit 16 minutes. Et pourtant, il a marqué les gens. Et ça, c'est incroyable.
Et là, on retrouve c'est un fort. Peu le phénomène Shere Khan et Kaiser Sosé.
Ouais.
Contrairement à Dark Vador qu'on a vu 1700 ouais. heures. Ah je crois.
Mais Dark Vador, pour revenir juste sur un truc, je sais plus qui disait, c'était toi Aurélien, que depuis le temps et tout, il est un petit peu dénaturé de son essence de méchant parce qu'on le voit à peu près partout. Je trouve que dans le Rogue One,
on l'a désacralisé en tout cas.
Désacralisé, le peu de moments où on le voit dans le Rogue One, on le voit à peu près 15 secondes faire une apparition et je trouve que ça le remet directement en mode ouais, putain, on avait oublié à quel point il pouvait être stylé badass.
Et moi, une des rares fois où j'ai vu une salle, en France en tout cas, s'exclamer pendant un film, c'était durant le sixième Star Wars, ce moment où on voit le casque de Dark Vador et le moment où on entend le premier souffle.
Ouais.
Mais la salle était en feu, quoi. Et j'ai rarement vu ça en France. Parce qu'aux États-Unis, finalement, quand on va voir un film là-bas, c'est assez courant que les gens s'enflamment pendant une scène ou crient. Mais en France, c'est très rare. Et c'était la première fois en France où je voyais des gens être complètement fous en voyant une scène à l'écran.
Avant de passer au vote final, je vous propose qu'on fasse la petite tradition de ce podcast qui est un petit jeu. Un vrai ou faux. Je suis resté dans le thème du cinéma. Je vais vous parler de performances que des acteurs ont pu faire ou pas pour préparer un rôle. Genre, tel acteur a perdu X kilos pour un rôle. Vous allez me dire si pour vous, elles sont vraies ou elles sont fausses. François Cluzet, il s'est fait casser les deux jambes à coups de burin pour son rôle dans Intouchables.
C'est faux.
Effectivement, c'est vrai. D'ailleurs, gros rôle. Non, effectivement, c'est faux. Javier Bardem, pour un rôle...
C'est fait une coupe de merde. Oui.
Pour un rôle, il est resté couché près de 3 mois... Et il a reçu des coups de rasoir sur le sommet du crâne.
Oui, c'est vrai.
C'est absolument vrai. C'est pour le film Mar Adentro. Il devait prendre 21 ans et se transformer en quinquagénaire tétraplégique. Et du coup, il est resté couché pendant 3 mois. Et il a même pris des petites scarifications sur le crâne pour entrer dans son rôle.
Waouh.
Donc, Javier Bardem, pense à un mec qui va au bout de ses rôles physiquement.
Attends, juste pour faire un tétraplégique, du coup ?
Ouais.
Bon, ok.
Putain. En mode Daniel Day-Lewis, quoi. Ouais,
donc François Cluzet à côté, très peu de préparation au final, un peu déçu.
Mais d'ailleurs, en parlant de méchants, bon, en plus c'était dans la vidéo qu'on avait fait ensemble, parce qu'on a fait une vidéo avec Aurélien, Anis et Freddy, qui parlait de Dark Knight. Et en fait, Heath Ledger, au moment de préparer son rôle, lui s'est enfermé dans un motel pendant plusieurs jours. Et voilà, il a préparé son rôle enfermé dans ce motel, il voulait voir personne. Et souvent, les méchants, pour créer leur rôle, font ça.
Après, il devait jouer dans un film où, dans le film, il devait se suicider. Du coup, pour préparer le rôle, il s'est suicidé. Faut avoir la ref. Hein.
Il fallait compter 8 heures pour peindre Rebecca Romijn en bleu, l'actrice qui joue Mystique dans X-Men 2. 8 heures de maquillage.
C'est faux, il en fallait 7. C'est le quiz.
Le quiz, pas ouf.
Je ne sais pas.
Vrai, vrai.
C'est vrai. C'est bien 8 heures chaque jour avant un rôle.
Putain. Mais du coup, t'es, quand tu finis de maquiller, c'est fin de journée.
Ouais, c'est un peu ça. Ce que je me dis, je sais pas comment sont gérés les contrats quand t'as beaucoup de maquillage comme ça.
Tu tournes une minute.
Pour jouer dans Didier, Alain Chabat a passé tous ses week-ends pendant 6 mois au centre SPA de Joinville.
Moi j'ai la réponse, mais je vous laisse un peu répondre.
Oui, parce que toi t'es un fan de Didier, toi. Je vais dire oui.
Bah du coup oui, oui.
C'est faux.
C'est complètement faux.
Ah putain. J'étais mindfuck, vous êtes des Hannibal Lecter.
Renée Zellweger a pris 12 kilos pour jouer dans Bridget Jones.
C'est vrai.
Bah au moins, ouais.
C'est vrai.
C'est vrai. C'est totalement vrai. D'ailleurs, elle a pas mal gueulé parce qu'a priori, elle a mis beaucoup de temps à reperdre le poids. C'est un truc qui l'a assez impacté et qu'elle a assez mal vécu derrière.
Et d'ailleurs, pendant le... Je balance des petites anecdotes comme
vas-y,
ça.
Vas-y, ah, on adore, on adore.
Mais pendant le film, elle sortait avec Jim Carrey. C'était le début de sa relation avec Jim Carrey. Et en fait, entre deux prises, elle avait une photo de... Parce qu'avant, on n'avait pas de téléphone portable pour avoir des photos à l'intérieur. Donc, c'était la bonne vieille technique de mettre des photos de photomaton dans son portefeuille. Et en fait, elle avait une photo de Jim Carrey. Et entre chaque prise, c'est le réalisateur qui l'a dit dans un interview, un making-of. En fait, quand le mec disait couper, elle prenait son portefeuille et regardait la photo d'une carré et elle la fixait, comme ça. Elle regardait la photo, et puis quand il reprenait, bah, elle la remettait dans sa poche et puis elle reprenait la scène. Elle était
weird.
In love.
Putain, ok.
Elle était in love. Ouais,
elle était bien in love, hein. Faut être très in love pour faire ça quand même, non ?
Bah oui.
Pour décrocher le premier rôle dans The Revenant, DiCaprio, il a dû démontrer au réalisateur Alejandro González Iñárritu qu'il était capable de survivre 24 heures dans la forêt.
Faux.
Non, je vois pas faire ça.
Faux.
C'est complètement faux. Et enfin, Danny Boone, il s'est forcé à vivre 35 ans dans le Nord juste pour son rôle dans Bienvenue chez les Ch'tis.
Oui.
C'est vrai.
Forcé par ses parents.
Exactement. C'est exactement que pour ça. Yes.
Il n'y a pas de question sur Daniel Day-Lewis, qui est le mec qui a construit une maison. C'est ça, non ? Toi, tu dois savoir un peu les anecdotes sur Daniel Day-Lewis. Genre pour le dernier des Mohicans, où il doit vivre dans une maison dans la forêt, bah, il est parti 6 mois plus tôt pour la construire. ce genre okay. de truc quoi.
Incroyable, non j'avais pas tout à l'heure.
Il y en a plein sur Daniel Day. Je plains le mec qui devra jouer le biopic de Daniel Day-Lewis, qui devra faire tellement de trucs chose. Que lui a fait pour
et
préparer ses rôles.
Et le mec qui
jouera
le biopic du mec qui joue le...
Oh là là, ça va être une galère.
On parle des meilleurs méchants, mais Daniel Day-Lewis qui est pour moi le meilleur acteur sans discussion possible aujourd'hui. Wow. C'est un bon débat ça.
D'ailleurs okay. il est un très bon méchant
prévu,
dans Gangs of New York.
Il est prévu exactement, ce ouais. débat.
Et JB, petite question perso, est-ce que t'es le pote en soirée où tous tes potes te demandent t'as bien une anecdote sur ce truc-là et tout ou,
Non, pas vraiment, mais pour le coup, c'est assez drôle parce que dans la série Video Store sur la chaîne, je joue le rôle d'un type qui travaille dans un vidéoclub et qui balance plein d'anecdotes à son pote qui lui, pas s'en fout, mais un peu plus cool. Et parfois, quand je suis en soirée avec Guillaume, il m'arrive de lui balancer des anecdotes de films. Et en fait, c'est drôle parce qu'on se rend compte qu'on a l'impression que c'est un épisode de Video Store. parce que finalement, je lui dis de la même manière, je dis ouais, t'es au courant que dans le film, machin et tout. Et du coup, on s'en rend compte et c'est assez drôle, en fait. Mais non, mais pas vraiment, en fait.
Et comment tu le sais tout ça? Genre, tu mates beaucoup de making-of, etc. Genre, comment.
Bah, en fait.
Wikipédia. Que, en fait, tout est.
Non, mais déjà, j'ai vécu pendant 2 ans à Montréal et là-bas, je travaillais dans un vidéoclub. Donc, pendant deux ans.
Donc, en fait, c'est un biopic.
Ben non, mais en fait, pendant 2 ans, c'était vraiment ma vie, quoi. C'est-à-dire que j'avais une bande de potes qui. En fait, moi, je suis arrivé là-bas, je connaissais personne. Et du coup, tous ces mecs sont devenus mes potes, et puis on non. parlait que de films, c'était vraiment que des cinéphiles. Et là-bas, je regardais 3 films par jour parce que je regardais un film pendant ma pause déj, un film et 2 films le soir avant de dormir. Et en fait, j'ai fait ça pendant 2 ans en fait. J'ai regardé 3 films par jour pendant 2 ans vraiment de manière.
Ça fait à peu près 2000 films, donc c'est beaucoup.
Mais ça sort pas les anecdotes, enfin ça donne pas les anecdotes.
Si, parce que je regardais les making of en plus, je regardais les making of, mais après je me renseigne beaucoup, je lis beaucoup d'interviews. Mais même, en fait, quand je me renseigne sur. Quand j'aime un film. Je passe au moins 2-3 heures après sur internet à essayer de me renseigner sur le film. Là par exemple, la semaine dernière j'ai vu un film que j'ai jamais vu qui est le Prisonnier d'Alcatraz avec Burt Lancaster. J'ai trouvé ce film fascinant et les 2 jours qui ont suivi je me suis renseigné à fond sur le film. Du coup voilà, puis après ça reste. Puis voilà,
ok, j'en mets.
Chers amis, je vous propose qu'on tranche dans ce débat final, car l'émission doit durer à peu près 1h50, vous qui l'écoutez maintenant.
Non.
Du coup, petit tour de table pour essayer d'avoir le fin mot de cette histoire sur le meilleur méchant du ciné. Est-ce que vous allez garder le même qu'en arrivant? Est-ce que vous allez accepter de changer un petit peu pour qu'on ait un gagnant qui émerge? Aurélien, est-ce que tu restes sur...
Donc on a Kaiser Soze, ouais. Hans Gruber... Le T-800 et Hannibal Lecter.
Qui seraient pas des gens très sympas à avoir chez soi en apéro.
En même temps, si moi, là, je change, je baisse Gruber, mais je crois que vous allez pas me suivre sur Hans Gruber de toute façon.
Non, mais c'est ça les stratégies.
Voilà, ouais, autant gars. Choisir un autre que tu préfères. T'as
moi,
ton deuxième choix.
Moi, je sais que j'irai pas sur Hannibal.
Ok.
Parce que je crois que je l'ai vu, mais je sais même plus, tu vois. Donc, du coup, c'est con.
Mais... Kaiser Soze.
Bah ouais, lui, j'aime bien ce qu'il incarne, comme on disait, le côté, c'est le même, il arrive même à battre le spectateur, quoi, tu vois, il y a un côté, il gagne à la fin, on se rappelle de son nom, tout ça.
Est-ce que c'est pas après, son traitement, encore une fois, plus que lui, qui...
Mais après, non, le T-800 m'a traumatisé, gamin, donc c'est vrai qu'il y a un côté ultime, c'est compliqué, hein, cette histoire, hein. Bah, peut-être que je vais changer, je te laisse demander à quelqu'un d'autre s'il va changer.
Cyrus, Kaiser Soze.
Moi, je reste sur Kaiser Soze. Hannibal Lecter, c'est mon choix 2, je vais dire, quelque part. Parce que, en fait, ce qui me plaît chez Hannibal Lecter, c'est le côté, quelque part, où bah, il est. Tu vois, genre, il y a eu le 1 et il y a le 2, et le 2, il est toujours là, quoi. Tu vois ce que je veux dire ?
Il y a le 3 aussi.
Ok, il y a le 3 aussi. C'est ce que je veux dire.
Mais alors... qui est avant Dragon Rouge ? Non, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas.
J'ai pas vu les suites, moi.
Ok.
Donc, tu vois, genre, et ça, j'aime bien les méchants qui
reviennent. Quoi.
Qui, non, mais qui tiennent le coup, tu vois. Et genre, c'est pas des méchants qui sont, entre guillemets, comme je disais tout à l'heure dans l'émission, c'est-à-dire les méchants un peu pétés, où genre, ils sont juste là pour faire valoir du héros. Hannibal Lecter, non, c'est un vrai méchant, tu vois. Donc, Kaiser Soze, ça reste mon choix numéro 1. Après, si Kaiser Soze ne peut pas gagner, je basculerai sur Hannibal Lecter. Mais...
Celui sur lequel moi je basculerai pas. Donc, voilà. Pour l'instant, on n'avance pas du tout.
Non, mais c'est pour ça que pour l'instant.
Les gens réduisent potentiellement.
Oui, pour l'instant, je reste sur Kaiser Soze parce que je trouve que voilà, il a. Je vais pas revenir sur tous les arguments, mais.
Okay.
Voilà, Kaiser Soze.
JB, T-800.
Ouais, bah c'est difficile de départager parce que moi je n'ai pas vu Usual Suspect. Cyrus n'a pas vu Terminator, donc c'est difficile de se positionner sur ces méchants-là.
Alors que tout le monde a vu Le Seigneur des Agneaux, j'ai l'impression autour de cette.
Bah moi j'aime beaucoup Hans Gruber.
Mais moi j'avoue que même si j'ai pas vu Terminator, le fait que ce soit qu'il soit programmé, pour moi c'est un. Ça fait que ça peut.
Philosophiquement, ça. Ça marche pas.
Non, mais j'aurais pas pu voter pour lui en termes de méchant. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, alors Kaiser Soze, donc je vais pas me tourner vers lui forcément. Hans Gruber, je l'aime beaucoup, mais par rapport à ceux qu'on a cités, je pense qu'il est peut-être moins méchant.
Pas ouf le choix, Aurélien. Ouais.
On ne réinvitera pas Aurélien, du coup, c'est sa deuxième et dernière.
Bah
fois.
Oui, c'est.
Moi, j'aurais envie.
J'ose pas dire non, donc ça
j'aurais envie de rester sur le T800. Après, je te rejoins sur Hannibal Lecter. Je trouve que c'est un super méchant. Il est intelligent, il est féroce, il est glaçant.
Il est classe.
Classe,
il écoute du classique.
Ah, si, on peut le voir avec un beau costume et un beau chapeau.
Il est distingué.
Il est très distingué. Je resterai bien évidemment sur le T-800 parce que je continue à penser que c'est le méchant le plus terrifiant, le plus puissant de l'histoire. Parce que d'ailleurs, on en a pas parlé, mais si on fait un fight de méchants sur un ring, je pense que c'est le T-800 qui l'emporte à la fin parmi tous les autres méchants. Physiquement, la bagarre, je parle.
Alors sur un ring, oui. Après, si t'as une préparation, je pense que Hannibal Lecter peut aller dans les vestiaires et parler au T-800 et. Et lui mindfuck un peu son programme.
Et la seule personne qui peut faire changer le T-800 de.
Ouais, c'est ça.
Mais après, genre Thanos. À la bagarre.
Ah, bagarre Thanos Terminator. Bonne bagarre.
J'aimerais bien voir ça aussi.
Octogone direct.
Mais non, oui, je vais rester sur le T-800. Après, si on m'enlève le T-800 que je dois choisir avec vos trois méchants, je prends.
Putain, ça va finir sur l'autre con de Hannibal Lecter.
Non, parce que j'ai l'impression que.
Non, parce que je reste sur le T-800. Je reste sur le T-800.
Moi, je suis sur Hannibal toujours en choix numéro 1. J'ai pas vu Terminator non plus, donc c'est difficile. Il n'y a pas l'affect que j'ai
là,
pu
j'ai
avoir.
J'ai le sentiment qu'on a quand même deux T-800 pour un Kaiser Soze et un Hannibal.
Non, je suis sur Hannibal. Aurélien, il s'est aussi rangé comme Cyrus a pu se ranger du côté Hannibal.
C'est ça,
aussi.
En fait.
Je me suis pas encore rangé, calmez-vous.
Divertissez-moi.
Non, mais attends, si je résume choix 1, choix 2, j'ai l'impression que Tom, choix 1, c'est Hannibal, choix 2, Kaiser Soze. Moi, c'est Kaiser Soze, choix 2, Hannibal. Aurélien, c'est choix 1.
Hans Gruber.
Choix 2, T-800.
Non, choix 2, Kaiser Soze, j'ai l'impression.
Non.
T-800. Ah bon?
Non, mais... Regardez le tabac là.
Ouais, il s'est enflammé.
Non, justement, je suis emmerdé entre les deux votes.
JB, T-800 et 2 Hannibal.
T-800 et 2 Hannibal.
Il y a quand même 3 fois Hannibal.
Non, mais c'est-à-dire que si toi tu dis pas en choix 2 Kaiser Soze, c'est Hannibal qui gagne.
C'est des manipulations politiques
là. C'est ça qui se passe.
Après, j'ai entendu Aurélien dire, j'ai pas vraiment de souvenir d'Hannibal Lecter. C'était pas
c'est
trop
vrai.
Marqué. Alors,
bah non,
ça me ferait
chier que ce soit Hannibal Lecter.
Ça me ferait chier que tu choisisses Hannibal face au.
Bah, choisis en choix 2, prends Kaiser Soze.
Sinon, on change tous. Parce qu'imaginez un truc genre, c'est un film, le méchant, c'est un pneu. C'est quand même c'est cool de ouf. Venez, on dit Rubber, meilleur méchant de l'histoire.
D'ailleurs, je l'ai vu dans le top 20 des méchants.
C'est possible.
Ah, moi, il est dans mon top 3, moi.
Aurélien, on a besoin de toi pour clôturer ce podcast.
Ouais, mais si je dis T-800,
oui,
c'est Hannibal
aussi,
qui gagne.
Il a aussi dit, voilà, exactement. Et il a aussi dit que Kaiser Soze avait tué le quatrième. Enfin, avait tué le spectateur aussi. Ouais. Avec
mais en même temps, si je dis T-800 et que toi tu dis T-800, on est deux.
Bah oui.
Ouais, c'est T-800 qui gagne si tu fais ça.
Ah, bah oui.
Ah, si tu mets en 1, c'est-à-dire que tu enlèves Kruger là.
Bah, non. j'ai pas envie que ça
soit. Déjà, il te respecte pas en disant Kruger.
Ouais, j'avoue, putain. Cyrus, merde.
T'es un peu copié sur Hamlet, je trouve, Cyrus.
Kruger. Le seul Freddy qu'il aime, c'est Gladieux.
Exact.
C'est pas faux.
Et ma tante aussi, qui s'appelle Freddy.
C'est vrai.
Donc, ouais, c'est devient des manœuvres politiciennes pour faire élire.
Exactement.
Mais si tu, en deux, tu mets Kaiser Soze, Kaiser Soze gagne. En vrai.
Oui, mais non.
Mais ce serait très décevant que ce soit Kaiser Soze qui gagne.
C'est vrai. Un film que je n'avais pas vu, on peut pas recevoir un invité qui n'a pas vu le film.
Non, mais face à Hannibal et T-800, ce serait vraiment.
Ok, Aurélien, c'est maintenant le dernier choix.
3, 2, 1, Aurélien.
T-800.
Oh là 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 là.
Même parce que t'as été trop insistant.
Je t'insiste, t'as tout niqué. Tu seras jamais un bon méchant dans un film de thriller psychologique.
Tu peux pas être un mentaliste non plus.
Donc, officiellement, le méchant, le meilleur méchant du cinéma. C'est le T-800.
Mais non.
Bah, ils sont deux contre
mais
un.
Non.
Bah non, mais je me range, mec. Je suis
t'es
Hannibal.
Bien sûr.
Yes.
Bien sûr. Ok, bah, donc on est sur une égalité. Chers auditeurs, ça va être à vous de départager cet épisode.
Mais vous devriez peut-être lâcher l'affaire, les gars, parce que ce que vous savez pas, c'est que le T-800, tant qu'il aura pas gagné, il va continuer.
C'est ça. Ce podcast va pas finir jusque-là.
Après, si Hannibal Lecter est programmé pour défoncer le T-800, c'est pas sûr qu'il gagne. Ouais. Si le T-800 est programmé pour défoncer Hannibal, là on le sait.
Et entre nous, sans vouloir spoiler le film qui s'appelle pas Le Seigneur des Anneaux, mais l'autre titre là, Le Silence des Agneaux.
Est-ce que tu vas le spoiler quand même du coup sans
Non,
vouloir,
mais ou... en tout cas, un T-800, ça ne se mange pas.
Exactement.
Voilà, alors, sauf pour pas spoiler la vie, un T-800, ça n'existe pas. Des psychopathes cannibales, ça existe.
Voilà,
là,
merci.
En termes de danger
psychopathe
présent.
Cannibale, il va bouffer le cerveau d'un robot, tu vas voir. Accroche-toi.
Enfin, un psychopathe. Non, j'allais spoiler, mais en fait, non.
Un psychopathe tueur dans quoi
oh bah, moi tu peux, j'y vais.
Ok, donc messieurs, deux vainqueurs ex aequo pour cette émission. Le meilleur méchant, c'est soit le T-800, soit Hannibal Lecter, qui sont quand même deux beaux champions, ça s'applaudit.
Après T-800, c'est plus nom de carte mère que nom de méchant quand même.
C'est vrai.
C'est pas un nom très flippant, tu vois.
Donc du coup, tous les votes pour ce podcast final sur les réseaux sociaux.
Qui tient au courant les méchants après du fait qu'ils ont gagné?
Moi, je vais leur envoyer en charge.
Ok,
ouais,
cool. Très bien.
Je vais faire, t'inquiète, je m'en occupe. J'ai, je crois que j'ai sur Viadeo, Hannibal Lecter, je ferai un petit MP.
Non, non, t'es 800.
Yes.
Un petit MP.
100 balles, lui. Hein. Les amis, merci beaucoup d'être venus à cet épisode. Aurélien,
merci, ouais,
merci beaucoup. Où est-ce qu'on retrouve ton travail? C'est l'instant promo du podcast. Où est-ce qu'on te suit?
Bah, moi, vous tapez Aurélien Prévost sur Google. Ça marche avec tout le monde, ça. Hein.
Prévost avec quel
E-A-U-X, ça s'écrit. P-R-E-V-E-A-U-X. Vous aurez le lien qui va vers ma chaîne YouTube ou vers Twitter qui rebalance vers tout. Vers ma chaîne, vers Multiprise, vers tout un... Sinon, je fais des trucs sur Golden Moustache. Je suis aussi auteur et réalisateur.
Très bien.
Je crois que c'est bon. Hein. Et sur AB1, une chaîne que personne n'a, je fais une émission aussi. Entre deux épisodes d'Hélène et les garçons, vous verrez une émission avec Freddy Anis qui s'appelle Fail Army.
Chambé.
Des bars tous les mercredis soirs à 22h.
On sera au rendez-vous.
En vrai, c'est après le catch.
Stylé. Les liens seront dans la description du podcast. Toi, JB, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Sur Tel Somme de Clic. T-A-L-E-S From, c'est très compliqué comme nom.
Ouais, c'est, comme vrai, ouais. Bah, oui. C'est comme Tales from the Crypt, mais avec clic à la fin.
Exactement, à la base c'était un jeu de mots et t'es le premier à t'en rendre compte. Et
ah ouais,
je te serre la main. Je te serre la main de loin comme ça.
Mais bah, vraiment
moi, je suis dégoûté, je l'avais depuis.
Moi je l'ai compris tardivement. Ah
ouais. Et nous, Cyrus, on se retrouve où?
Et ben nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du meilleur podcast.
Et on se retrouve aussi où? Samedi, on est où?
Samedi, on est à la Nuit Originale, effectivement, sur le créneau de 1h à 2h du matin.
La Nuit Originale de Thomas Hercouet, qui est venu ici pour la meilleure façon de se débarrasser d'un cadavre.
Exactement. Et on dit déjà de quoi on va parler? On peut, hein, le programme est sorti,
on
je
peut,
crois.
Ouais.
Où il va sortir?
Il va sortir, mais on peut.
On va parler de la meilleure signature de mail.
Yes.
Et on va parler de... on va faire un quiz aussi. Mm. Un quiz, un truc qu'on avait abordé un peu avec Flaubert et Le Pérave.
On va faire deviner des trucs en lisant des avis internet.
Eh bien, exactement, les amis, figurez-vous qu'on va tous se retrouver là-bas parce que je crois que tu y es aussi.
Eh bien,
j'y suis également.
Eh bien,
on se retrouvera
tous les quatre là-bas. Du coup.
Trop bien.
Donc, on vous dit à jeudi prochain pour un nouvel épisode. On vous dit à samedi 19 janvier si vous voulez nous suivre en direct. Ce sera sur la chaîne YouTube La Nuit Originale.
Ouais, ouais. Ou Nuit Originale. Ou
Nuit Originale. Et puis, d'ici là, portez-vous bien.
Ouais, gros gros bisous.
Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite. On se quitte en chanson, comme d'habitude. 3. 4.
Simply the best down, 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 down.
Hannibal.
Si vous écoutez encore, c'est que vous avez peut-être bien aimé ce podcast, alors merci.
Ouais, merci beaucoup, et pour nous aider à le faire connaître et à le faire grandir, vous pouvez faire plusieurs trucs.
Alors déjà, vous abonnez au meilleur podcast sur vos applis de podcast. Et oui, j'ai dit beaucoup de fois podcast.
Il y a un autre truc important, c'est le noter 5 étoiles et mettre un petit commentaire sur Apple Podcast.
Ouais, ça nous aiderait beaucoup pour le référencement et pour le faire découvrir à d'autres personnes.
Et enfin, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne louper aucun épisode, les liens sont en description.
Et au passage, on remercie Nouvelles Écoutes qui a coproduit cet épisode.
À jeudi.
À jeudi prochain.
Simply the best. Tain, 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 tain.